enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
J'aimerais qu'on puisse lire ce verset dans Timothée. Donc dans l'épître aux Timothée, si vous avez une Bible avec vous, vous pourrez suivre avec moi. 1 Timothée, chapitre 2. Verset 3, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et bien sûr, la vérité, c'est Jésus. Et Dieu veut que tu sois sauvé. Ce matin, si tu écoutes cette émission, que tu es encore dans tes péchés ou que tu pratiques une religion, que tu penses que tu connais Dieu, que tu cherches Dieu, bien, sache que la voie du salut, tu la trouveras et seulement en Jésus-Christ. Et la volonté de Dieu, c'est que tu puisses être sauvé. Ça, c'est vraiment l'amour que le Seigneur a pour l'homme, dans le sens où il veut que aucun ne se perde, que aucun homme ne puisse aller en enfer, mais que tous les hommes puissent être sauvés. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a donné Jésus. Quand on regarde dans l'évangile de Jean, en chapitre 11, on voit en fait le Seigneur face à la mort et quelle est sa réaction. Quand on lit Jean chapitre 11, on voit une histoire d'un homme qui était malade, qui s'appelait Lazare. Et cet homme avait deux sœurs, une qui s'appelait Marie et aussi une qui s'appelait Marthe. D'ailleurs, ces deux sœurs, on les voit dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et au verset 38, si vous pouvez suivre avec moi, Luc chapitre 10 et au verset 38, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Donc, vous voyez, Jésus connaissait Marthe et Marie et également Lazare, puisque on le voit qu'il s'est rendu chez elle et qu'il était en train donc d'enseigner, de parler avec Marie des choses du royaume de Dieu, des choses de la parole de Dieu, pendant que sa sœur était occupée aux soins domestiques. Donc, pour en revenir dans Jean chapitre 11, eh bien, leur frère Lazare était malade. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les sœurs vont envoyer chercher Jésus pour lui dire « Viens, parce que ton frère, ton ami, celui que tu aimes, eh bien, il est malade. » Et Jésus ne va pas venir tout de suite. Il va dire « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié par elle. » Et Jésus va s'attarder là où il était. Et finalement, quand il va arriver à Béthanie, là où était donc cette famille, va trouver que Lazare est mort et qu'il était mort d'ailleurs depuis 4 jours. Et en fait, Jésus avait attendu volontairement, parce qu'il n'avait pas l'intention de guérir Lazare, mais il avait l'intention de le ressusciter d'entre les morts, ce qui était un miracle bien plus grand, et le ressusciter juste avant même que d'ailleurs il ne donne sa vie pour le salut des hommes. Là où j'aimerais venir ce matin pour vous parler de l'amour de Jésus et aussi du cœur du Seigneur face à la mort, quand Jésus, donc on peut lire verset 32, Jean chapitre 11, « Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit dans son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ? » Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Et verset 35, c'est d'ailleurs le verset le plus court de la Bible, « Jésus pleura. » Jésus pleura face à la souffrance, face à la tristesse de ses deux sœurs, face aussi à ce tombeau dans lequel il y avait Lazare, qui était mort donc depuis 4 jours. Jésus va pleurer. Et Jésus ne va pas pleurer parce que il est désespéré à cause de la mort, parce que quelque temps un peu plus loin, on va voir que au verset 44, au verset 43, ayant dit cela, donc Jésus cria d'une voix forte et dit « Lazare sort !» Et le mort sortit les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit « Déliez-le et laissez-le aller. » On voit que Jésus va ressusciter Lazare d'entre les morts. Et Jésus savait qu'il allait ressusciter Lazare. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'était pas venu tout de suite alors que Lazare était encore malade. Alors vous allez me dire « Mais pourquoi finalement est-ce que Jésus a pleuré devant le tombeau ? Est-ce qu'il était triste à cause de Marie et de Marthe ? Certainement. Est-ce qu'il était triste de la mort de Lazare ? Oui, parce que bon, Dieu, quand le Seigneur a créé l'homme, on voit dans le livre de la Genèse, tout au début de la parole de Dieu, on voit que Dieu va créer l'homme. Et d'ailleurs, on peut lire ensemble ce passage. C'est dans Genèse, donc c'est le premier livre de la parole de Dieu. On voit comment Dieu, d'abord, dans un premier temps, va créer les cieux et la terre, va créer aussi tout ce qu'on peut voir, le soleil, la lune, les étoiles, et aussi va mettre des arbres, séparer l'eau, et puis les animaux. Et au verset 26, on voit que Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons et sur la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur les reptiles, qui rampent sur la terre. » Et on voit verset 27, « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, et Dieu les bénit. » Et en fait, quand Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, Dieu n'avait pas créé l'homme pour qu'il vieillisse, pour qu'il tombe malade ou pour qu'il meure. Il avait créé l'homme parfait et l'homme était couvert de la gloire de Dieu, tellement de la gloire de Dieu d'ailleurs qu'il n'avait pas besoin de vêtements, c'était comme des vêtements sur lui. Par contre, le jour où l'homme a péché en désobéissant à Dieu, eh bien Dieu lui avait dit « En mourant, si tu manges de ce fruit-là, de l'arbre qu'il avait planté dans le jardin, il avait donné cet ordre à Adam, tu ne toucheras pas au fruit de cet arbre parce que le jour où tu y toucheras, tu mourras certainement. » Et en fait, ce n'était pas un piège que Dieu avait tendu à Adam en plaçant cet arbre dans le jardin, mais c'était l'objet du libre choix, parce que s'il n'y avait pas eu cet arbre-là, eh bien Adam n'aurait pas eu le choix, il aurait fait toutes les choses que Dieu voulait. Mais quand on est placé devant un interdit ou devant un ordre, ne fais pas ceci, tu as le choix de le faire ou de ne pas le faire. Et en fait, Dieu a voulu que l'homme ait le choix de lui obéir, de l'aimer, de le servir, ou le choix de ne pas le faire. Et un jour, donc, Adam a désobéi à Dieu. Ils ont mangé du fruit de l'arbre qui se trouve dans ce jardin. Et en mangeant, eh bien, ils sont morts spirituellement. C'est-à-dire qu'ils ont été séparés de Dieu à cause de leur désobéissance. Et puis, un jour, quelques temps plus tard, on ne sait pas exactement combien de temps plus tard, mais plus tard, ils sont morts physiquement. Et à cause de la désobéissance de l'homme, la malédiction est rentrée dans ce monde, la maladie, la vieillesse et la mort. Et en fait, je pense que quand Jésus se trouvait devant le tombeau de Lazare, il a pleuré parce que il s'est rappelé de comment il avait créé Adam à son image, à sa ressemblance parfaite, et il voyait la déchéance de l'homme à cause de son péché. Vous savez, quand on parle de péché, souvent quand on a un esprit religieux ou quand on a été élevé dans la religion, on se dit oui, on sait ce que c'est que le péché, et il y a un certain mépris, parfois un endurcissement dans le cœur de l'homme par rapport au péché, où il se dit bon, bah tout le monde fait comme ça, pourquoi on appelle ça péché, c'est pas du péché, c'est quelque chose de normal. Et je sais que dans certaines sociétés, notamment en Europe, le péché est banalisé, et quand on parle de péché, ça fait rigoler les gens en disant, les gens disent après, mais vous croyez dans ces trucs-là, vous êtes religieux, et la religion c'est pourri, la religion ça vaut rien, la religion ça tient les gens dans l'ignorance, ça les empêche d'évoluer, ça les empêche de se développer. ça les empêche de vivre comme ils en ont envie. La religion, c'est nul. Et ce mot péché, ça, c'est ridicule. Jusqu'à ce que, parfois, on voit même dans certaines sociétés, que ce soit des jeunes ou que ce soit des moins jeunes, des gens qui prêchent le péché, qui rit avec le péché, qui trouve que c'est normal, et certains plus ils vont pécher, plus ils seront contents, c'est pour eux, pour certaines personnes, ça en arrive même au stade où c'est un jeu. Et on banalise le péché. On peut voir parfois dans certaines sociétés même des débats télévisés sur, par exemple, l'avortement, qu'on considère comme quelque chose de normal, alors que vous savez comme moi que l'avortement, c'est un crime, parce que c'est retirer la vie d'un être humain, c'est tuer un être humain. Et on banalise ça, on montre des exemples, des reportages, on trouve que c'est quelque chose de normal, alors que ça ne l'est pas. Le péché, c'est quelque chose qui détruit la vie des hommes, et c'est quelque chose sur lequel Jésus a pleuré. Quand il pleurait devant le tombeau de Lazare, il pleurait sur le péché, sur les conséquences du péché, sur la destruction que le péché a amené dans la vie des hommes. Et le péché, c'est ce qui sépare l'homme de Dieu. Si aujourd'hui, toi qui écoutes cette émission, tu n'es pas sauvé, ou même si tu es sauvé, que tu vis dans le péché, tu vis dans des choses qui vont te détruire, qui vont détruire ta vie. Et pour si tu n'es pas sauvé, non seulement ça va te détruire, détruire ta vie, mais ça t'amènera finalement en enfer. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu vis-à-vis de l'homme, la motivation de Dieu vis-à-vis de l'homme, eh bien, c'est l'amour. Dieu n'est pas venu pour juger les hommes, il ne veut pas non plus organiser la vie des hommes dans le sens de contrôler ou de nous embrigader, de nous forcer à vivre comme nous ne voulons pas vivre, parce que Dieu nous a créés entièrement et complètement libres. Mais il nous a créés aussi pour que nous puissions le connaître, vivre en relation avec lui et voir en lui un Père, voir en lui notre Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, celui qui est capable de rendre notre vie intéressante. On se retrouve dans quelques instants après une pause musicale.
Tu es toute langue dira, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira, tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira.
Donc, comme je vous le disais, la motivation de Dieu par rapport à l'homme, c'est l'amour. L'amour, Dieu aime l'homme, Dieu veut se faire connaître à l'homme. Et quand Jésus s'est retrouvé devant le tombeau de Lazare, eh bien, il a pleuré en voyant la déchéance humaine, en voyant les conséquences du péché. On lit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce qui m'intéresse là, et ce qui doit nous intéresser chacun d'entre nous, c'est le début de ce verset avant d'en arriver plus loin dans le verset. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Et quand on parle du monde, on parle de tous les hommes, mais nous faisons partie du monde et Dieu nous aime. Dieu t'aime, toi qui écoutes cette émission, personnellement, en tant qu'individu, Dieu t'aime et il t'a tellement aimé qu'il a donné Jésus afin que si tu crois en lui, eh bien tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. La mort éternelle, la séparation éternelle avec Dieu, l'enfer, ce n'est pas la volonté de Dieu pour les hommes. La volonté de Dieu, comme on l'a dit tout au début de cette émission, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de Jésus-Christ, de la vérité, du salut qui est en Christ. Parce que le salut n'est pas ailleurs, il n'est pas en dehors de Christ. J'aimerais que on puisse voir un petit peu de quelle façon, eh bien, l'amour de Dieu se manifeste et s'est manifesté en Jésus-Christ, au travers de Christ, pour que les hommes puissent être sauvés. D'abord, j'aimerais qu'on lise dans Luc, au chapitre 15, on va lire la parabole de la brebis perdue. Les paraboles, ce sont des petites histoires tout à fait simples et banales que Jésus racontait à ses disciples pour que puisse comprendre les choses spirituelles, parce que les choses spirituelles, ce sont des choses que nous ne pouvons pas connaître ni voir, puisque elles ne sont pas naturelles. Nous voyons que les choses naturelles, les choses spirituelles, eh bien, elles ont besoin d'être révélées dans nos cœurs. Et souvent, pour expliquer ces choses-là, Jésus racontait donc des paraboles. Ce sont des petites histoires. On va lire Luc chapitre 15 et au verset 3 jusqu'à 7. Puis il leur dit cette parabole, lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et il leur dit, réjouissez-vous avec moi car j'ai trouvé ma brebis, celle qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui ont besoin de repentance. On peut lire d'ailleurs la parabole suivante, versets 8 à 10, où quelle femme, si elle a 10 drachmes, des drachmes ce sont des pièces de monnaie, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et qu'est-ce que nous montre ce passage ? Nous ne sommes bien sûr ni des brebis, ni des pièces de monnaie. Ce n'est pas du tout ce que le Seigneur veut dire en donnant ces exemples. L'exemple du berger avec ses brebis, eh bien, quand on parle d'un berger et quand on parle de ses brebis, le berger est celui qui vit avec ses brebis et ses brebis sont toute sa vie. Ses brebis ont une extrême importance à ses yeux. Il en prend soin, il les amène dans un endroit où il y a des pâturages, il veille sur elles et quand elles sont malades, il les soigne, quand elles sont blessées et également il les soigne, il s'occupe de ses brebis. Ça serait un petit peu l'image d'une maman avec ses enfants. Un berger dort avec ses brebis. Le berger, il passe son temps et sa vie avec ses brebis. Il n'a qu'une pensée en tête, c'est le bien-être de ses brebis. Et en fait, ça, c'est l'image du cœur de Jésus par rapport aux hommes, par rapport à sa création, à ses créatures. Donc, Jésus te voit comme quelqu'un d'important. Et si tu n'es pas sauvé, Jésus est celui qui te cherche, et il te cherche, il va à ta recherche jusqu'à ce qu'il te trouve. Et c'est son désir. Si tu es tombé dans une fosse, si tu es blessé ou si tu es coincé quelque part dans ta vie, il est là pour, il vient te chercher, il vient pour t'aider, il vient pour se révéler à toi, il vient pour te sortir de toutes ces choses, de ces problèmes. Et la Bible nous montre que quand quelqu'un se repent, quand un pécheur se repent, il y a de la joie dans le ciel. Il y a des gens qui ont peur de se repentir, qui ont peur de reconnaître leur péché parce que ils pensent que ça va se savoir ou que Dieu va le savoir. Et je vais vous rassurer, Dieu le sait déjà, Dieu te connaît parfaitement, il sait exactement où tu en es dans ta vie. Que si tu es un pécheur, il sait que tu es un pécheur, il sait qui tu es, il sait ce que tu penses, il sait ce que tu as fait depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, mais il n'a qu'un désir, c'est que tu sois sauvé. Et il a envoyé Jésus sur cette terre pour que, eh bien, tu puisses le connaître et tu puisses connaître la voie du salut, parce que le salut, il est en Christ. Seulement, c'est lui seul qui est mort sur cette croix. Il n'avait pas besoin de mourir, il est mort sur la croix. Pourquoi ? Parce que c'était lui seul qui était juste et qui pouvait prendre tes péchés. Un pécheur ne peut pas prendre les péchés d'un autre pécheur, parce que un pécheur est lui-même condamné. Ce n'est pas un homme qui peut te sauver, c'est seulement Jésus, le Fils de Dieu, celui qui est parfait en toute chose, qui a été fait péché pour que tu puisses recevoir sa justice. Et quand tu reconnais tes péchés, quand tu viens à Jésus, eh bien, il te met avec joie sur ses épaules. Bien sûr, c'est une image là qui est là. Et dans le ciel, il y a de la joie. Il y a de la joie quand quelqu'un reçoit Christ. Et revenir à la deuxième parabole, l'histoire de la drachme perdue, comme je vous le disais, une drachme, c'est une pièce de monnaie et c'est quelque chose qui a de la valeur. Cette femme, elle avait 10 pièces de monnaie et il y en a une qu'elle a perdue. Elle s'est pas dit, bon, bah c'est pas grave, il m'en reste 9. Mais elle a cherché cette pièce jusqu'à ce qu'elle la trouve. Et en fait, le Seigneur va te chercher, va chercher ton cœur tant que tu seras vivant sur cette terre. Et son désir, c'est vraiment de te trouver. Ce désir, c'est de te voir te tourner vers lui et de le recevoir comme le Seigneur, et comme le Seigneur, comme le Sauveur et comme le Seigneur de ta vie. Et tant qu'il y aura un souffle de vie dans ton corps, sache que le Seigneur va te chercher parce qu'il t'aime et il veut que tu puisses le connaître. Un peu plus loin aussi, dans Luc, toujours on est dans Luc, au chapitre 9, on voit toute une histoire aussi qui se déroule. Jésus avec ses disciples où Jésus va se rendre dans un bourg des Samaritains, parce que Jésus voyageait beaucoup, et lorsque Jésus voyageait, eh bien il allait à pied. Et on peut lire au verset 51, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait vers Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Et ils allèrent dans un autre bourg. Ce passage nous montre que donc Jésus se dirigeait vers Jérusalem, et il a dû passer par la Samarie. La Samarie, c'était au centre d'Israël. Au nord, il y avait la Galilée. Au centre, la Samarie. Et au sud, la Judée. Et les Samaritains, c'était des gens qui avaient été implantés, des populations étrangères qui avaient été implantées au temps où le peuple juif était parti en déportation à cause de ses péchés. Ils sont partis en déportation et on a mis d'autres personnes à leur place, et toutes ces générations après, puisque entre le temps où le peuple juif est revenu de déportation jusqu'à la venue de Jésus, il y a à peu près, je pense, environ 450 ans. Et après pendant cette période, eh bien, les populations se sont intégrées sans se mélanger. Et les Samaritains n'aimaient pas du tout les Juifs parce qu'ils voyaient d'un mauvais œil ces gens qui étaient revenus sur le territoire qu'ils habitaient. Et les Juifs voyaient d'un très mauvais œil les Samaritains, ces étrangers qui avaient volé leur terre. Donc il y avait une guerre continuelle et puis aussi des incompréhensions, parce que les Juifs étaient le peuple élu de Dieu qui pratiquait la loi, alors que les Samaritains étaient des peuples, donc des gens qui avaient été implantés là, n'étaient pas le peuple de Dieu, qui ne pratiquaient même pas correctement la parole de Dieu et qui faisaient pas mal de mélanges. Donc c'est pour ça que Jésus, se trouvant dans ce bourg des Samaritains, se rendant vers Jérusalem, ce n'est pas du tout étonnant que on ne va pas le recevoir. Et ça choque et ça scandalise ses disciples qui disent « Bon, on va demander au feu de ciel de descendre » et Jésus va leur dire « Non, je ne suis pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Donc, qu'est-ce que je veux dire dans ce passage-là ? Quelle que soit ta vie, où que tu sois, quoi que ce soit que tu aies vécu, le Seigneur n'est pas là pour te juger, il n'est pas là pour te condamner, il n'est pas là pour te faire des reproches, il est là pour te sauver. Et ce que Dieu veut, c'est que tu puisses recevoir Jésus-Christ aujourd'hui comme ton sauveur personnel. Qui que tu sois comme cette brebis perdue qui est égarée sur le chemin de ta vie, tu es aussi comme cette pièce de monnaie qui a une grande valeur. Tu es aussi peut-être comme ces Samaritains, ces pires pécheurs qui n'ont pas accepté la venue de Jésus, ou même qui ont contesté qui était Jésus, qui ont critiqué qui était Jésus. Et en fait, le Seigneur ne te tient même pas rigueur de cela et te dit « Ce que je veux, c'est te sauver maintenant. Je ne suis pas venu pour te perdre, mais je suis venu pour te sauver. Même si tu ne m'as pas compris, même si tu ne m'as pas accepté, aujourd'hui, ça peut changer. » Vous savez, avec le Seigneur, ce n'est jamais trop tard. Avec les hommes, c'est souvent trop tard. Il arrive à un point parfois de non-retour, mais tant qu'il y aura un souffle de vie en toi, le Seigneur te cherchera parce qu'il t'aime et il veut que tu sois sauvé. Voilà, il est maintenant le temps de nous quitter sur ces bonnes pensées. J'espère que vous allez vraiment prendre cette décision de recevoir Jésus comme votre sauveur personnel. Et moi, je vous dis au revoir.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.